pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'immobilier. Non, on ne va pas vous parler des meilleures affaires à Paris dans l'immobilier. On va vous parler un peu de l'autre côté du décor. On va parler de ce qui se passe dans le bâtiment et travaux publics. Et on va en parler par le biais notamment, mais on élargira en deuxième partie plus globalement sur la question générale du BTP. On va en parler dans un premier temps sur ce qui se passe sur le chantier des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Car en effet, en début septembre 2022, dix salariés sans papier ont assigné des entreprises du BTP et leurs sous-traitants devant les prud'hommes. En fait, c'est des inspecteurs du travail qui sont tombés sur cette situation. Et on va en parler avec notre invité, mais qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Richard Bloch, je suis défenseur syndical pour la CGT à Paris. Et je représente donc des salariés qui sont nos syndiqués devant les conseils de prud'hommes.
Voilà pour poser le décor. Alors, avant de rentrer plus profondément dans notre échange, on va diffuser un premier son où on va entendre justement certains salariés s'exprimer sur cette question du travail sur le chantier des JO 2024.
Dans un an et demi, la ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été. Alors qu'une quarantaine de chantiers sont en cours, dont le village des athlètes et le centre aquatique, des enquêtes ont mis au jour la présence de travailleurs irréguliers. Parmi eux, Moussa, originaire du Mali. Il dit avoir été exploité sur les chantiers de Paris 2024.
Tous ces beaux stades que les gens voient, mais en réalité, c'est que se cache derrière. Ces stades-là, ils sont construits au lieu de pauvres. Il y a des chantiers que je fais, je travaille jusqu'à 20 heures. Si tu dis que tu ne veux pas rester, ils vont te faire des chantages. Ils vont dire soit tu restes, soit tu prends tes affaires.
Gay est lui aussi originaire du Mali, lui aussi sans papier. Il nous montre sa carte d'accès au chantier du centre aquatique où il aurait travaillé clandestinement.
Du coup, ton patron, il savait que tu étais sans papier ou pas?
Mais oui. Par exemple, tu travailles 2 mois, après il paye 1 mois. C'est comme ça. Mais j'accepte parce qu'il connaît mon situation, moi aussi je connais.
Il y a un qui dort là.
Depuis la découverte de la présence de travailleurs sans papier, l'inspection du travail multiplie les contrôles sur les chantiers et une enquête judiciaire a été ouverte pour travail dissimulé et emploi d'étrangers sans titre en bande organisée. De son côté, la société Solideo, en charge de livrer les ouvrages olympiques, affirme avoir pris le problème à bras le corps.
On a analysé les situations et quand il y avait des entreprises fautives, elles ont été immédiatement écartées du chantier, des opérations. Mais on s'est également interrogé sur les actions que nous mettions en œuvre et on a décidé de renforcer les actions de prévention du travail illégal.
J'ai fait 3 mois là-bas. Après 4 mois, le 26 septembre, ils sont venus le contrôle. Donc ils sont partis. Après-midi, le patron il m'a dit j'arrête le boulot.
Le patron t'a dit tu reviens plus?
Oui.
Et depuis, tu travailles plus du tout?
Non. Je travaille plus. Depuis ça, j'ai à la maison.
Mais il y a des moments où on va jusqu'à 19h, jusqu'à parfois à 20h même. Il y a des sentiers que je fais, je travaille jusqu'à 20h. Si tu dis tu ne veux pas rester, ils vont te faire des chantages. Ils vont dire soit tu restes, soit tu prends tes affaires. Des gens comme ça, on peut les traiter de criminels. On peut les traiter de criminels. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils peuvent tout faire. La raison pour laquelle on a peur, on ne sent pas en sécurité.
La présence de travailleurs sans papier sème l'embarras alors que les organisateurs de Paris 2024 espèrent des jeux exemplaires, loin des polémiques sur les conditions de travail dénoncées lors du mondial de football au Qatar.
Mais nous sommes toujours en compagnie de Richard Bloch, donc défenseur syndical à la CGT. Alors, voilà, ça pose un petit peu le décor. Moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu de comment s'est passé un petit peu tout ça, justement, dans comment s'est organisé, comment les salariés, comment vous les avez rencontrés, comment ça s'est passé.
Oh bah, très naturellement, les salariés sont venus voir le syndicat qu'ils reconnaissaient et qu'ils connaissaient, qui est la CGT. Et nous avons pris en charge, comme on doit le faire, leur situation, à l'époque de salariés sans papier en plus, avec cette couche supplémentaire de difficultés. Nous sommes intervenus là où il fallait. Et aujourd'hui, ces salariés-là sont régularisés, ils ont un titre de séjour légal. Et nous intervenons donc dans les directions maintenant des conseils de prud'hommes pour faire reconnaître la qualité de travail dissimulé au travail qu'ils ont accompli, puisqu'ils l'ont fait sans contrat de travail, ce qui en soi-même n'est pas forcément complètement illégal, mais en tout cas sans feuille de paye. Alors là, on commence à toucher au fond de la légalité, sans cotisation sociale, de manière dangereuse, puisque dans les chantiers du bâtiment, on porte ce qu'on appelle des EPI, des éléments de protection individuelle, qu'ils n'avaient pas, puisque ce sont eux-mêmes qui fournissaient les gants et ils n'avaient rien d'autre. Ils avaient des vêtements ordinaires, sans aucune protection sociale, sans médecine du travail, sans rien. Voilà, c'est la situation standard de ces 10 salariés.
Alors, on peut trouver quand même ça assez étonnant, travail dissimulé, puisque quand même, on a des grosses entreprises quand même qui sont sur le coup. Il y a Vinci, FH, Spi-Batignolles, GCC... Donc, ils sont quand même à la tête de ces chantiers. On pourrait se dire quand même, c'est étonnant quand même, cette histoire.
Alors, je vais juste rectifier pour une des sociétés qui s'appelle Vinci, qui effectivement était assignée dans ces affaires-là et que nous mettons aujourd'hui hors de cause dans les deux dossiers où elle était assignée, puisqu'il ne s'agit pas de Vinci. Il s'agit d'un îlot dans un chantier qui était géré par une autre société. Donc Vinci est hors de cause. Okay. Pour les autres, en ce qui nous concerne, on n'est pas complètement étonné. Nous avons juste un concentré préalable aux Jeux Olympiques de ce qui se passe dans le bâtiment en général, sur une zone géographique assez dense qui est la périphérie parisienne, dans un espace de temps assez dense également, puisque les Jeux Olympiques doivent être prêts en temps et en heure. Mais c'est une pratique qui ne nous étonne absolument pas, qu'on retrouve dans plein d'autres chantiers. D'ailleurs, ces salariés-là, dans les chantiers que nous avons inventoriés, sur lesquels ils ont travaillé, n'ont pas travaillé que pour les Jeux Olympiques.
C'est-à-dire, pour, par exemple
J'ai un chantier là qui s'appelle l'hôpital de Melun.
D'accord.
Qui n'a donc rien à voir avec les Jeux Olympiques, sur lequel j'ai 1, 2, 3, 4, 5 salariés qui ont travaillé pour Spi-Batignolles, a priori.
D'accord. Et ils se retrouvent du coup propulsés sur le chantier des Jeux Olympiques, quoi.
Ah bah oui, parce que ces salariés-là ont travaillé alternativement sur des... des chantiers qui concernent directement les Jeux Olympiques, comme la piscine de Marville, ou sur d'autres chantiers qui n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques. C'est la pratique de... Derrière tout ça, il y a la pratique des entreprises, des grands du BTP, qui ont externalisé de fait, il suffit d'analyser la structure de l'emploi dans ces entreprises-là, ont de fait externalisé tous les postes que j'appellerais de premier niveau, sans vouloir...
sans classifier forcément.
Voilà. Donc tout ce qui est main-d'œuvre de base, ont externalisé au maximum. Et du coup, comme le travail demeure, il y a bien d'autres salariés que les leurs qui le font. Donc où ils trouvent ces salariés-là, ça a deux sources. Principalement l'intérim et la sous-traitance. Et la sous-traitance peut se faire à plusieurs niveaux. On a répertorié sur certains chantiers jusqu'à 6 niveaux de sous-traitance. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire que moi, gros du BTP, je prends un sous-traitant qui lui-même va prendre un sous-traitant, qui lui-même va prendre un sous-traitant, etc. etc.,
ouais, ça etc. peut être poupée russe, quoi.
voilà.
On trouve pop-off.
Et donc au bout, on se trouve... potentiellement avec des entreprises qui sont légalement déclarées en tant qu'entreprise, avec un vrai numéro SIRET, sinon ils ne pourraient pas facturer.
Rappelle ce que c'est peut-être un numéro de SIRET pour.
C'est en quelque sorte la plaque d'immatriculation de l'entreprise. C'est un numéro qui est attribué par le tribunal de commerce qui permet d'identifier la bonne entreprise. Et tout ce qu'on aura à faire avec cette entreprise-là, pour être sûr que ce soit la bonne, c'est par le numéro de SIRET qu'on l'identifie. Très bien. Donc, ces entreprises existent. S'il n'y avait pas de numéro SIRET, on ne pourrait, par exemple, pas facturer et donc payer des factures de ces entreprises-là. Donc ça, elles ont une déclaration légale, mais sur les pratiques, sur le terrain, on n'est pas forcément aussi légal que ça.
Oui, il y a beaucoup de souplesse, on va dire ça comme ça.
Oui. On a de l'embauche, comme on dit, c'est le terme utilisé, au cul du camion, sans aucune vérification de rien. Donc on se retrouve, comme c'est le cas là, avec des salariés sans papier. On se retrouve avec des... je ne sais pas comment on les appeler, mais peut-être des maîtres chanteurs qui savent très bien qu'ils embauchent des salariés sans papier et qui profitent précisément de la situation de ces salariés sans papier pour les sous-payer, pour ne faire aucune déclaration légale concernant le paiement des cotisations sociales, ne pas donner de feuille de paye, etc. etc.
Parce que, on le disait tout à l'heure hors micro, c'est vrai qu'il y a deux niveaux, c'est-à-dire il y a les entreprises, on va, en gros, qui risquent pas grand-chose et qui pourront peut-être recréer une autre entreprise. Et puis, il y a les salariés qui plus est sans papier, qui, eux, effectivement, s'ils sont pris, c'est expulsion, quoi.
Ah oui, tout à fait, c'est exactement ça. On a même une entreprise sous-traitante, hein, pas les gros du bâtiment, une entreprise sous-traitante qui a fait l'objet d'une mention sur le SIRET indiquant que le gérant officiel de cette entreprise n'habite pas à l'adresse indiquée par lui-même. Et donc, nous avons là, pour le coup, une entreprise qui est potentiellement sans papier, pour qui c'est infiniment moins dangereux de se faire attraper puisqu'il ne s'est rien passé, que pour un salarié sans papier. C'est pas du tout le même sort qu'il aurait réservé. On a cette entreprise... Le greffe du tribunal de commerce a vu que l'adresse n'était pas la bonne en 2018, il y a 5 ans.
D'accord.
Il ne s'est strictement rien passé depuis pour cette entreprise qui a pu continuer à agir et à forfanter ses méfaits au vu et au su de tout le monde.
On va dire que nous, la sous-traitance, on connaît un petit peu à l'actualité des luttes puisque on a pas mal suivi de grèves dans l'hôtellerie. Puisque notamment, on le répète assez souvent, mais les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, notamment, puisqu'il y avait là, c'est pareil, c'était des sous-traitances aussi. Moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu comment le cheminement s'est fait à partir de la découverte de cette affaire.
Bien, alors, j'allais dire malheureusement, la CGT a une certaine expérience en la matière. Donc on a un cheminement en direction, je dirais, des autorités de ce pays, en disant « mais comment peut-on voir ça ?» Et donc en démontrant que ces gens-là travaillent en France depuis longtemps parfois, et que donc il va falloir légaliser la situation, et puis on demande aux autorités légales d'intervenir légalement à l'encontre des fraudeurs que sont les entreprises qui pratiquent le travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est l'action de faire travailler un salarié sans lui délivrer tous les documents légaux qu'on est obligé de délivrer, et donc sans les déclarer à l'URSSAF, sans payer les cotisations sociales. Alors... Ça, c'est pour l'ensemble du travail, mais c'est aussi, il y a une autre partie, alors qui est beaucoup plus massive en France et qui ne concerne pas que les bâtiments, ce sont le non-paiement, par exemple, d'heures supplémentaires, puisque la non-exactitude d'une feuille de paye par rapport aux heures de travail réalisées constitue du travail dissimulé.
D'ailleurs, petite parenthèse, puisque tu parlais de l'URSSAF, la moitié des sommes, c'est des sources de l'URSSAF Île-de-France, la moitié des sommes recouvrées en 2022 par l'URSSAF en Île-de-France provient majoritairement à 50% du bâtiment. Loin, les transports et le commerce sont très loin derrière. Hein.
Je ne connais pas les chiffres, mais je ne suis absolument pas surpris. Mmh.
Donc, voilà, vous avez cette affaire, vous avez cette affaire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez, alors, toi tu décides de suivre cette affaire, comment ça s'organise?
Suivre cette affaire, je suis dans une organisation syndicale.
Certes. Quand je dis tu décides.
voilà, il se passe deux choses. Un, le versant, je dirais, régularisation en lien avec les autorités du pays. Et puis une deuxième chose qui va se passer, c'est comme pour n'importe quel salarié qui n'aurait pas eu de feuille de paye, à qui il manquerait un certain nombre d'éléments de salaire, ce qui est le cas présentement, on demande au tribunal compétent, c'est-à-dire le conseil de prud'homme, un, de reconnaître le fait qu'il y a eu un travail, deux, de reconnaître le fait que ce travail n'a pas fait l'objet d'une déclaration normale, trois, qu'il n'a pas été payé normalement, quatre, de condamner les entreprises qu'il doit condamner au paiement des arriérés de salaire.
Ce qu'on peut trouver dans d'autres affaires, on va dire, courantes.
Hélas.
Hélas. Et alors là, du coup, parce que, évidemment, là, on est quand même sur, on est sur un gros chantier, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que toi, tu dis, tu alertes les autorités, et qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, ce n'est pas moi qui ai alerté les autorités, c'est mon organisation syndicale.
Voilà. Vous alertez les autorités, voilà.
on fonctionne quand même collectivement. Oui. Et puis, à un moment donné, dans l'organisation syndicale, on me demande si je veux bien prendre en charge le versant prud'homme de ces dossiers-là. J'ai accepté et donc j'accomplis mon mandat avec conscience et célérité.
C'est-à-dire, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le fait que peut-être que les chambres de prud'hommes traînent peut-être un peu des pieds, parce que là, on a affaire quand même à... Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, il faut aller vite, le chantier, il ne faut pas perdre, le temps est précieux, donc peut-être qu'on traîne un peu les pieds pour avoir quelques informations. Comment ça se passe un petit peu, justement ?
Alors, on commence par, d'abord, c'est le préalable qui peut parfois être long, et là aussi, il ne faut pas y voir malice. J'ai malheureusement l'habitude, les salariés africains n'apportent pas le même soin que les salariés européens en général, à la conservation des papiers. Ah, c'est une civilisation de la parole. Papier est moins important pour eux. Et pour nous, il est extrêmement important. Donc, il faut commencer par recueillir et classer les papiers. Parfois, les documents sont abîmés, mais parfois, il en manque. On commence par réunir tous les documents nécessaires.
Parce peut-être que parfois, on ne leur a pas donné non plus.
Et parfois, on ne leur a pas donné non plus. Voilà. Mais on a, par exemple, des mouvements sur un compte bancaire. Donc il me faut les relevés bancaires pour démontrer qu'il y a bien eu des mouvements. Et à partir de ces mouvements-là, on a un virement avec un numéro identifiant du virement. On voit d'où ça vient, ce qui a marqué. Donc là, je relève sur des relevés bancaires des virements d'une entreprise pour lequel il y a marqué salaire sur le virement. À partir de là, je suis fondé à penser que c'est du salaire. Or, il n'y a pas de relation de travail entre l'entreprise et le salarié. Donc tout ce que je vais demander au prud'homme, la raison pour laquelle je vais le demander, il faut que je la démontre à partir de documents. Et la quantité de ce que je vais demander, il faut que je le démontre à partir de calculs. Donc ensuite, on fait des calculs, c'est-à-dire là, je me suis fait aider par mes camarades du bâtiment qui connaissent la structure des salaires du bâtiment mieux que moi, parce que c'est assez compliqué dans le bâtiment. Et donc, j'ai recomposé les salaires qu'ils auraient dû percevoir, le comparer avec ce que j'ai pu recueillir comme somme qu'ils ont perçue, même si c'est en espèces, et pour aboutir, l'un moins l'autre, c'est ce qu'on leur doit. Ouais. Et ensuite, il y a un autre phénomène, donc c'est la reconnaissance du fait que c'est bien un contrat de travail, il y a eu exécution d'un contrat de travail, que le contrat de travail a été rompu de fait à un moment donné. Et donc, il y a toutes les règles relatives à la rupture du contrat de travail qui donnent lieu également à des indemnités.
Voilà, c'est un peu le cheminement. Donc, bien évidemment, la suite se passe comment ? C'est-à-dire que tout ça est posé. Voilà, on a les éléments. Ça se poursuit comment après, une fois que tous ces éléments
Alors,
sont...
nous avons rendez-vous là, le 12 octobre au Conseil de Prud'homme de Bobigny pour une première audience qui s'appelle le Bureau de conciliation et d'orientation. Auxquels nous nous rendrons, mais au préalable, on a bien évidemment quelques petites démarches à faire, et notamment faire parvenir les éléments matériels, ce qu'on appelle les pièces, aux parties adverses, et c'est ce qu'on a fait par courrier recommandé. De ce point de vue-là, nous n'avons pas de problème avec les gros du BTP. En revanche, pour les sous-traitants, on cumule un certain nombre de problèmes, dont une grande première, d'ailleurs pour moi, ça fait 12 ans que je fréquente les conseils de prud'homme. J'ai une première, là, j'ai une société qui refuse de réceptionner un recommandé.
D'accord.
Par exemple. Okay. Donc on a tous ces problèmes-là qu'il va falloir gérer. Alors ça se fait via des huissiers, puisqu'on va envoyer un huissier à l'entreprise en lui disant « si vous ne voulez pas le recommander, vous ne le voulez pas ». Mais là, l'huissier, il aura accompli son acte d'huissier et vous serez considéré avoir été convoqué. Après, vous venez pas, tant pis pour vous. Mais voilà. Donc on a 3 entreprises sur les 9 sous-traitants qui sont encore vivantes, en tout cas officiellement sur le papier.
Qui existent encore, quoi.
Voilà, qui ne sont pas déclarées mortes. On en a 2 qui font l'objet d'une liquidation, mais avec la désignation d'un mandataire liquidateur. Donc on a un représentant, même si ce n'est pas du personnel de l'entreprise en face de nous. Et enfin, on a 3 entreprises qui ont été radiées volontairement des registres du commerce en mars et en juin 2023. Ce qui nous étonne d'ailleurs, parce que normalement, le procureur de la République qui a été saisi, comme on le disait tout à l'heure, par les inspections du travail, aurait dû alerter les tribunaux de commerce concernés, puisque tout est dans les dépositions. Nous avons tout. Enfin, moi, je n'ai aucun moyen de police. Je me fie à ce que j'ai entre les mains. Ouais. Et donc, le procureur...
C'est un peu David contre Goliath. Quoi,
je ne sais pas. J'ai tendance à penser que la classe ouvrière, c'est plus Goliath que David. Mais...
on comprend.
Le procureur de la République qui aurait dû faire son office aurait dû, par alerte auprès des tribunaux de commerce, permettre qu'une radiation volontaire ne se fasse pas. Or, là, moi, je constate qu'alors que le procureur de la République est alerté, selon mes informations, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans la presse à l'époque, depuis octobre 2022, il a été possible à 3 de ces entreprises de demander une radiation volontaire et de l'obtenir. C'est donc que les tribunaux de commerce n'ont pas eu cette alerte-là. Et ça se passe pour 2 d'entre elles en mars de cette année, 2023, et pour la 3e en juin 2023. Il y a un trou quelque part sur lequel on se pose des questions. Est-ce que c'est un manque de volonté à agir ou est-ce que c'est une volonté de ne pas agir? Moi, je n'ai pas la réponse.
Qu'est-ce qu'on appelle une radiation volontaire?
C'est la demande par une entreprise, par le gérant d'une entreprise, qui est faite auprès du tribunal de commerce, de dire « vous radiez mon numéro SIRET du registre du commerce ». Je n'existe plus, et pour liquider l'entreprise, en général, et c'est accordé en général, il n'y a pas de raison. Il y a des tas de raisons qui font qu'une entreprise, à un moment, cesse une activité. Mmh. Donc, on va la radier du tribunal de commerce, et pour liquider la situation sociale de l'entreprise, revendre les meubles, payer les factures qu'on doit encore, on va désigner un mandataire. Et dans les cas de radiation volontaire, comme c'est le cas là, généralement, on désigne comme mandataire le gérant de l'entreprise qui va opérer. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ces trois cas-là. Et donc, nous avons potentiellement... Alors, en plus, peut-être, c'est une pure hypothèse de ma part, que les gérants ne sont pas gérants de fait, mais seulement des prête-noms. Je ne sais pas. Toujours est-il que... les gérants ont été désignés comme mandataires pour liquider l'entreprise. C'est ce qui se passe généralement. Ouais. Voilà, mais moi, je suis demandeur et je pensais en toute bonne foi que c'était en cours, puisque le procureur de la République annonce depuis la fin de l'année dernière qu'il est saisi et qu'une enquête est en cours. Donc forcément, je j'imagine pas que les choses ne soient pas faites.
Évidemment, ouais, évidemment, tout ça est assez. C'est aussi ce qui vous a obligé vous aussi à médiatiser un petit peu plus cela, puisque ce qui est un peu compliqué, c'est que effectivement, on serait presque, je vais pas dire passé inaperçu, mais bon.
C'est en aussi tout cas, on peut se poser la question de savoir si ça n'avait pas été médiatisé, que se serait-il passé. En l'occurrence, malheureusement, poser la question, c'est à moitié y répondre.
Ouais. Alors quand même, on l'entendait peut-être un peu dans le sonore tout à l'heure, la société qui livre les ouvrages olympiques, elle parle d'une centaine de cas repérés, malgré les 850 contrôles qui ont été effectués. Alors rappelons que les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail, bah, il y a une saignée un peu hein, dans ce secteur-là aussi, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
C'est un métier qui est en grave danger, ouais. Puisque j'ai même lu très dernièrement d'ailleurs... que la formation des inspecteurs du travail allait être en partie déléguée au MEDEF. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais. Donc c'est une profession qui a été particulièrement maltraitée depuis plusieurs années. Ce qui me fait dire d'ailleurs, si nous comparons ce que les gens connaissent mieux en général que le code du travail, c'est le code de la route. C'est comme ça.
Hey, bon. Bah oui.
Bah, ça me fait dire... qu'on a enlevé la police en détruisant à moitié l'inspection du travail. On a enlevé les radars que l'on met partout sur les routes, qu'étaient les délégués du personnel, puisque les ordonnances Macron ont divisé par deux, voire par trois dans certains endroits, le nombre de représentants du personnel. Et enfin, ce qu'on fait dans le code de la route, c'est-à-dire d'alourdir les peines, là, on a fait le contraire en code du travail, on les a divisés par deux, c'est les mêmes ordonnances Macron. Ouais. Donc au final, on obtient bah, le contraire de ce qu'on obtient en code de la route. En code de la route, l'ensemble des mesures prises ont divisé par deux ou par trois le nombre de morts et d'accidents. Oui, bah, dans le code du travail, on a fait exactement le contraire, donc on a le résultat inverse. C'est aussi simple que ça. C'est une politique schizophrénique, je dirais, de la part du gouvernement, ou des gouvernements, même successifs, en matière de droits sociaux.
Et bien sur ce, on va faire une pause musicale.
Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu, il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, qu'à quatre des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation, qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne. Les recueillements sur les tours,
les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette, les souvenez-vous, si, nom de Dieu, il n'y avait leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petits tambours qui battent la cadence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions qui claquent au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, vacances pour mille étés. Ce serait chouette d'aller sur la lune, si, nom de Dieu, il y avait leurs petits drapeaux, leurs petits fagnons, pour cette fois ricains de préférence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fagnons, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la rampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les rampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour de ras de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. Oh ya la ya 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 ya.
Et on vient d'entendre une chanson interprétée par Catherine Sauvage, s'appelle « Les Jeux Olympiques », ça nous semblait d'actualité. Et on est toujours en compagnie de Richard Bloch, qui donc est défenseur syndical à la CGT. Alors, en première partie d'émission, on a un petit peu fait une focale sur les Jeux Olympiques, puisque c'est un gros chantier qui va concerner plein de salariés. Alors, rappelez quand même, on va le resignaler, c'est que les salariés ont été régularisés.
Oui.
Hein, ça, c'est important de le rappeler.
Oui, ils sont régularisés aujourd'hui. On a reconnu leur qualité de salarié avec la reconnaissance donc par le travail. Et donc, ils ont des papiers.
Et donc, il y aura une audience le 12 octobre qui permettra la suite, c'est-à-dire qu'ils aient leur salaire correct, qu'ils soient, voilà, qu'ils aient...
C'est pas cette audience-là qui va permettre ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une audience de bureau de conciliation. Par contre, c'est, les premiers pas de la procédure qui risque de durer... comme je vous le disais tout à l'heure.
Tout à fait. Alors là, on va élargir un petit peu la focale, puisque, bien sûr, ça, c'est les chantiers des Olympiques, donc on en parle beaucoup. Mais c'est tous les jours, quoi. C'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Et voilà, pendant la pause musicale, on discutait. Et il y a aussi la question de l'intérim qui arrive beaucoup, puisque là aussi, pour que notamment ces chantiers et d'autres puissent continuer. Alors, ça pose aussi la question de l'internalisation des emplois aussi. Ça, c'est une autre question. Ça, je pense, c'est une question importante. Mais aussi, il y a la question de l'intérim, parce que toi, tu as suivi... des dossiers justement sur ces questions-là.
J'ai suivi pas mal de dossiers sur l'intérim. Mais il se passe exactement la même chose que ce que je viens de décrire pour le bâtiment. Ouais. Le Code du travail interdit absolument formellement l'emploi d'un salarié intérimaire sur un poste permanent de l'entreprise. Et il va même plus loin, c'est un des rares cas dans le Code du travail où il indique que l'emploi d'un salarié intérimaire en lieu et place d'un emploi permanent dans l'entreprise est sanctionné, peut être sanctionné, c'est pas doit, hein, c'est peut, c'est pas la même chose, d'une amende de 3 750 € et 7 500 € en cas de récidive. J'ai connaissance, moi, d'une entreprise contre laquelle j'ai saisi pour nombre de salariés intérimaires, où la qualité, la requalification en CDI a été obtenue devant les conseils de prud'homme. J'ai connaissance d'autres condamnations où je n'étais pas le défenseur qui sont obtenues par d'autres, de la même entreprise, exactement pour les mêmes motifs. Autrement dit, là, non seulement les faits sont constitués, mais sont même récidivants. Nous demandons systématiquement, en ce qui me concerne et d'autres défenseurs dans ce genre de cas maintenant, que le procureur de la République soit saisi par le Conseil de prud'homme. C'est ce qu'on demande dans la procédure. Je n'ai pas connaissance de la moindre amende qui a été donnée par le procureur de la République. Le tribunal, le Conseil de prud'homme n'a pas le pouvoir de mettre des amendes. Le procureur, oui. Voilà, ça n'est pas fait. Autrement dit, encore une fois, c'est une politique schizophrénique. Si je franchis un feu rouge et que je me fais attraper une fois, deux fois, trois fois, le juge du tribunal de police va me dire « Monsieur, vous exagérez peut-être un petit peu quand même, là, on en est à 5 feux rouges brûlés. » Eh bien, pas pour une entreprise.
Mmh. Ouais. C'est deux poids, deux mesures, quoi, un peu. C'est
toujours oui. Et puis, il y a un gros écart entre les deux poids et les deux mesures.
Ouais, carrément. Est-ce que vous devez traiter des accidents de travail aussi dans ces situations-là, par exemple ?
Alors, de ce qui peut résulter d'accidents du travail, oui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'après un accident du travail, il peut y avoir une inaptitude du salarié à son poste et ça se termine par un licenciement. Il se peut qu'il y ait faute inexcusable de l'employeur. Alors, c'est des dossiers qui s'étudient. Donc, la réponse est oui sur le principe, dans les faits, assez peu.
Alors, à ce sujet, on va lancer un petit sonore puisque le gouvernement fait actuellement la promotion sur les accidents de travail et on va lancer le petit sonore.
Chaque jour, 2 personnes meurent au travail et plus de 100 sont blessées gravement. Sécurité au travail, responsabilité de l'entreprise, vigilance de tous. Conseils et ressources sur securitéautravail.gouv.fr.
En 2021, ce sont 640 000 accidents du travail qui ont eu lieu, dont 39 000 graves. Près de 700 personnes sont décédées des suites de ces accidents. Pour le ministre du Travail, cette situation n'est pas tenable.
Les accidents du travail graves et mortels sont encore trop nombreux. C'est inacceptable et c'est pour cela que les mesures de prévention et de sensibilisation doivent encore être renforcées.
Des mesures existent, mais certaines catégories sont surreprésentées, comme chez les nouveaux embauchés, parfois mal formés, chez les intérimaires ou encore les travailleurs détachés. Depuis 10 ans, les chiffres ne baissent plus, comme une fatalité du monde du travail.
C'est vrai que ça reste un sujet à bas bruit. C'est-à-dire, c'est comme si finalement les blessés, les morts liés au travail étaient le prix à payer finalement au nom de la rentabilité économique.
La France est le plus mauvais élève de l'Union européenne en matière d'accidents du travail.
Et voilà, on est toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur antenne de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Voilà, ça me semblait important à ce moment-là de parler de ça, puisque on l'a un petit peu évoqué sur la première partie, mais ça aussi, ça dans la question des conditions de travail, elle est quand même prégnante. Alors là, le gouvernement fait une espèce de campagne un petit peu, en gros, chacun est un peu, chacun est responsable de son propre sort, mais c'est pas si simple que ça dans des entreprises, surtout quand tu as des pressions où tu dois rendre des chantiers vraiment très rapidement, quoi.
Bien, alors, de façon générale, je dirais déjà, enfin, j'ai entendu, comme tout le monde, le son que vous venez passé, mais je l'ai entendu bien avant. Ça me met hors de moi. Je n'ai pas d'autres mots. Nous avons affaire quand même à un gouvernement qui, par les ordonnances et par un certain nombre d'autres modifications légales, a tué les CHSCT, a détruit, alors il n'est pas tout seul.
C'était le système de hygiène et sécurité.
C'est ça.
Rappeler,
voilà. A détruit, mais ça il n'est pas tout seul, ce qu'était la médecine du travail pour la transformer en autre chose. Et on vient me dire aujourd'hui que les accidents du travail sont en pleine augmentation. Là aussi, j'ai employé tout à l'heure le mot de politique schizophrénique. mais c'est totalement schizophrénique. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit d'un côté, ah ben l'accident du travail, c'est intolérable, mais je fais tout, absolument tout, pour tout ce qui était système préventif des accidents du travail, n'existe plus dans les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les représentants du personnel, il y a encore moins de représentants du personnel spécialisés en conditions de travail et hygiène et sécurité, etc. etc. La médecine du travail ne fait plus ses enquêtes préalables. Voilà. Il y a une bonne nouvelle là-dedans, je vais vous la donner.
Oui.
C'est que la pratique du travail dissimulé dans le bâtiment fait baisser les accidents du travail. C'est pas joli, ça? Parce que nos salariés, qui travaillaient dans le bâtiment de manière complètement illégale, n'avaient aucune protection sociale, n'avaient évidemment, n'ayant pas été déclarés à la sécurité sociale, n'étaient pas assurés sociaux. Ils ont été victimes d'accidents du travail, qui n'ont pas été qualifiés en accidents du travail, et les soins ont été payés par le citoyen lambda à travers l'aide médicale. C'est extraordinaire.
D'accord.
Mais voilà, on a fait baisser les chiffres d'accidents du travail.
C'est important, hein, parce que c'est vrai que le thermomètre, il suffit effectivement que tu modifies un peu le thermomètre. Des fois, c'est un peu comme pour le chômage, c'est pareil. Tu modifies un peu le thermomètre et puis on te dit, regardez, tout a baissé. On est nickel, quoi.
Ah bah là, ils disent même pas que ça a baissé, puisque justement, ils disent que ça augmente.
Non, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est comment tu manœuvres le thermomètre aussi, quoi. C'est toujours un petit peu délicat.
Mais on obtient le résultat de sa politique. Et alors que des politiciens professionnels qui ont fait des études bien plus élevées que les miennes fassent semblant de ne pas comprendre qu'on obtient les résultats de sa politique et ne fassent pas le lien entre la politique qu'ils ont menée depuis des années et ce qu'ils constatent aujourd'hui dans les chiffres, moi, ça me laisse toujours pantois.
Oui, évidemment. Dans l'entreprise dont tu parlais, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi des travailleurs sans papier, je suppose.
Bah oui.
comment ça se passe justement pour eux, justement, dans cette... D'où ils viennent? Est-ce que c'est des travailleurs sans papier intérimaires, par exemple? Comment...
Alors, en général, je dirais en général, mais les généralités ne valent que ce qu'elles veulent. les entreprises d'intérim ont une connaissance professionnelle de l'intérim et du contrôle des titres d'identité qu'ils doivent opérer. Mais on trouve quand même des défaillances. Il y en a. On trouve tout de même des défaillances parce que y a... Derrière l'intérim, il y a aussi des mouvements financiers. Mmh. Voilà, c'est aussi bête que ça. L'entreprise d'intérim a toujours intérêt à fournir l'intérimaire à l'entreprise utilisatrice. C'est des revenus pour elle. Ouais. Donc, il y a des défaillances de ce point de vue-là. Mais la grande masse de ce que moi j'ai constaté, à hauteur d'homme, je dirais, hein, qui n'est pas du tout, n'a pas de valeur statistique, ce sont des entreprises qui embauchent directement, dont ça n'est pas le métier que d'embaucher, qui savent en général qu'ils embauchent. Ils savent très bien que le papier est probablement faux, qu'il n'y a pas de papier du tout, mais obtiennent, je dirais, le produit qu'ils recherchent, c'est-à-dire un salarié particulièrement souple et sensible à la parole de l'employeur qui dit tu fais ou d'abord tu n'as plus de boulot et en plus on va voir ça avec la préfecture tout de suite.
Ah, carrément.
Oui. Mmh, ouais. Alors après, attention, il faut prendre aussi ce que je dis avec... un peu de recul, ça c'est ce que je constate moi en tant que défenseur. Voilà. Y a aussi quelques employeurs, on en a vu des exemples il n'y a pas longtemps, un petit boulanger par-ci, etc., etc., qui disent « Mais pourquoi vous voulez foutre mon salarié dehors alors que moi, il va très bien chez moi, il travaille très bien, tout va bien, etc. etc. » Il y a aussi ça.
Mmh. Oui, c'est vraiment des choses aussi importantes parce que c'est quand même un secteur qui est un petit peu difficile d'accès. Alors bien sûr, beaucoup de ces boîtes d'intérim ont pignon sur rond. Il suffit d'aller dans un certain quartier à Paris où on en voit un petit peu quasiment les unes derrière les autres, mais leur fonctionnement est un petit peu obscur, quoi. On sait pas trop comment elles fonctionnent, quoi. Et c'est vrai qu'elles ont de la main d'œuvre quasiment parce que elles considèrent que l'être humain c'est de la main d'œuvre comme elles veulent, quoi.
Il y a ce que tu vois, il y a ce que tu vois pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, il y a les grands du travail temporaire, tout le monde connaît les noms, et puis il y a myriades, probablement des milliers de toutes petites entreprises de travail temporaire, et puis il y a ce que tu vois pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à quelque chose dans le travail temporaire qui fonctionne à l'envers de ce qu'il devrait travailler, qui fonctionne via des applications. Et uniquement via application. D'accord. C'est-à-dire que ce que tu vois dans certains quartiers de Paris, comme le 10e arrondissement, par exemple.
Près de la gare du Nord.
Voilà, oui, je connais assez bien le quartier. Ça n'existe plus. Il n'y a plus, je dirais, de boutique de travail temporaire. Tout se passe via une application. D'accord. Alors, si on voit le travail temporaire comme le fait qu'un salarié qui n'a pas d'emploi aille s'inscrire auprès d'une agence de travail temporaire, laquelle va la placer chez un utilisateur. Ça, c'est le sens, je dirais, normal, enfin, si tant est qu'il y ait une normalité en la matière, du travail temporaire. En tout cas, c'est le sens auquel on s'est habitué. Or, avec les applications, on assiste à autre chose. On assiste à des grosses entreprises qui embauchent directement le salarié temporaire et qui font régulariser par la suite par une entreprise via des applications, et vous avez des entreprises dont je tairai le nom ici, qui ne fonctionnent que par application, ils ne fonctionnent que comme ça, ils n'ont aucune agence nulle part, et qui font donc régulariser le contrat de travail du salarié temporaire a posteriori. Et alors le plus fort là-dedans, c'est que nous, on n'a plus la traçabilité. Le Code du travail oblige l'entreprise de travail temporaire à transmettre, le verbe est précis, transmettre, ça ne veut pas dire que le salarié l'obtient tout de suite, ouais. Mais en tout cas, à transmettre le contrat de travail sous 48 heures via l'application. Alors, quand on a du courrier, quand on a une signature avec la date de la signature, etc., etc., on peut tracer la date, ouais, à laquelle c'est transmis. Via l'application, on n'a plus la trace.
Ouais. Oui, donc du coup, ça facilite pas les choses pour faire des recherches, pour pouvoir un peu essayer de suivre un peu ce qui se passe.
C'est-à-dire que ça met tout le monde aussi dans des injonctions contradictoires, y compris d'ailleurs les salariés, oui, des permanents des entreprises de travail temporaire. On a affaire à un tel flux. Vous comprenez, quand vous avez une entreprise comme celle à laquelle je parlais tout à l'heure, qui a 40% de ses effectifs en emploi temporaire, et ça change tous les jours, et c'est des contrats quasiment journaliers. Voilà. Donc on a une demande de plusieurs centaines de contrats journaliers, ça veut dire qu'il y a du personnel au bout dans l'entreprise de travail temporaire qui devrait le rédiger et le transmettre sous 48 heures aux salariés. L'entreprise de travail temporaire n'est pas en capacité de faire ça. Donc, ce que font les gens, comme c'est des contrats journaliers, ils regroupent les contrats à la semaine, au mois, et transmettent aux salariés en fin de mois, parfois 10 ou 20 contrats. Donc, on est complètement hors la loi, mais le système s'est tellement emballé qu'on n'est plus en état d'être respecté. Et lorsqu'on attaque sur ces phénomènes-là, alors, on obtient assez peu de sanctions.
Ouais, c'est très compliqué, j'imagine bien. Qu'est-ce qui serait quand même aujourd'hui dans un monde, on va dire idéal, pour les salariés, quand même une société où le travail, on pourrait dire, un espèce d'Eldorado ou un peu la loi de la jungle, qu'est-ce qui permettrait aussi d'avoir des situations de travail un peu plus apaisées et sans avoir peur du lendemain, quoi.
le monde syndical apporte plusieurs réponses à cette question-là. Il y a un panel de réponses qui va de « à bas le travail » à « bas le salariat » et donc pas le travail, c'est un peu différent. Mmh. Et puis, moi, je réponds à titre personnel, puisque je m'occupe en pratique du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que, une, il y a des règles de droit qui sont inapplicables, il y a des règles de droit qui sont inappliquées, et que donc tout ce qui est contrôle de l'établissement des règles doit être renforcé. Éventuellement, contrôle et sanction du non-respect des règles doit être également renforcé, c'est-à-dire c'est exactement le contraire de ce à quoi s'emploient les gouvernements depuis une vingtaine d'années.
Ouais, c'est, on sent un peu le détricotage depuis, comme tu le dis, de tout ce qui protégeait un petit peu les salariés. Tu parlais du CHCT tout à l'heure. Mais justement, quel est le rapport de force qui se crée justement pour essayer de préserver et, je dirais, d'aller conquérir aussi de nouveaux droits, parce que en tant que syndicat, c'est aussi ça. C'est comment on est un peu plus, comment on arrive à être un peu plus offensif, quoi.
La lutte, docteur, la lutte.
Certes, mais et je rappelle quand même que le dernier mouvement, voilà, on est un peu perdu quand même.
Oui. Mais le recours au droit, très souvent, n'est en fait que dans la plupart des cas, alors quand il n'est pas individuel, c'est-à-dire à la suite d'un licenciement individuel, etc., le recours au droit, c'est aussi très souvent le constat d'un échec du rapport de force. Mmh. Et force est de reconnaître, à mon grand détriment d'ailleurs, la classe ouvrière, je dirais, recule pas complètement en désordre. Pas de manière désordonnée, c'est pas non plus une débandade, mais depuis une vingtaine d'années, et les coups les plus graves ont plus été portés par des gens qui ont été élus par elle.
Oui, et à un moment qu'on pensait qu'ils étaient de notre côté. c'est aussi un peu ça. Non, mais évidemment, après voilà, il y a aussi, il n'y a plus aujourd'hui d'entreprises, les entreprises sont un peu éclatées. Il y a aussi il y a eu l'avènement du télétravail, il y a eu aussi les contrats un peu individuels qui se sont installés. Donc c'est vrai que du coup, tout ça a un petit peu changé, mais en même temps, l'exploitation, elle continue.
Ben oui.
comment on se ressaisit un petit peu de tout ça, quoi.
Comment se ressaisit-on du droit ou ouais. Comment se ressaisit-on du rapport de force ?
Bah, les deux, j'allais dire un peu, le droit.
J'ai tendance à penser que le droit, c'est une pensée qui m'est personnelle, mais comme dirait l'autre que je partage, le droit n'est que la photographie, je dirais, instantanée d'un rapport de force à un moment donné. Donc le droit va évoluer dans un sens, il va évoluer dans un autre. Je ne fais pas spécialement confiance aux juristes. Alors, sur la technique du droit, ils sont, ils savent ce qu'ils font. Mais le juriste n'est pas forcément un politique. On voit de très, très grands juristes dans l'histoire qui ont fait les institutions légales à ce moment-là de régimes très peu recommandables. Et pourtant, ces institutions et ces règles de droit sont devenues légales à ce moment-là. C'est le pouvoir politique qui décide et c'est la photo bien d'un rapport de force.
Voilà, mais justement, comment le rapport de force il doit se recréer ? Parce que l'action syndicale est super importante et effectivement, il faut qu'elle soit renforcée. Parce que de parler des rapports de force, ça veut dire aussi dans les entreprises. Moi, je pensais à des salariés d'une entreprise Bonassa qui avait fait grève. D'ailleurs, c'est des intérimaires. Et qui, parce qu'ils n'avaient pas eu leur salaire et tout ça, ils avaient décidé de faire grève sur un chantier, par exemple. Donc là aussi, il est peut-être possible de justement que des personnes qui sont dans une position, puisque c'était aussi des gens qui avaient des difficultés de papier et tout ça, c'est comment aussi on arrive un petit peu à créer ce rapport de force, quoi. Comment on incite aussi à ce rapport de force, c'est là aussi que c'est important.
Le premier pas, c'est l'organisation collective. Je suis, vous l'avez compris, complètement à l'opposé de la vision anglo-saxonne du droit, ouais. Qui est que l'individu est responsable de son propre sort, tout point barre.
Ouais.
Non, il y a un collectif, d'ailleurs les employeurs ont aussi leur collectif, et eux ils savent très bien l'utiliser, leur collectif.
C'est clair.
Non, il y a un collectif, et collectivement, on doit non seulement faire évoluer des règles, mais ensuite les faire appliquer. Donc le premier pas, c'est l'organisation collective.
Oui. Et puis, c'est vrai que nous, on était assez surpris, parce qu'on a vu même des travailleurs sans papier, je pensais, qui sont en vélo et tout ça, bah, qui ont fait grève aussi. Il y a eu, oui. Il y a eu quelque chose, des petites choses comme ça, qui sont importantes, parce que même des gens qui sont, où c'est moins confortable qu'une personne qui est dans le pays, qui est installée et tout, eh bien, eux ont décidé de faire grève, parce que c'était l'exploitation à mort, quoi. Aussi. C'est ça qui...
Alors, bah, ils ont décidé de faire grève avec aussi leur organisation syndicale, et je crois savoir que la CGT n'était pas absente de cette affaire. On était même, je crois, à l'avant-garde. Mmh. Moi, je suis très fier d'être dans une organisation syndicale confédérale, c'est-à-dire qui organise toutes les professions, dans laquelle moi, en tant qu'ancien cheminot, hein, j'ai fait une carrière à la SNCF, nous avons, à des moments donnés, apporté notre force de militants, notre savoir-faire de militants à d'autres secteurs du transport. Je pense notamment à l'organisation de travailleurs routiers, etc., etc. Ça nous est naturel. Ce sont des salariés comme les autres qui n'ont pas forcément les moyens matériels de s'organiser à un moment donné, mais qui ne sont pas pour autant délaissés par le syndicalisme, et que le syndicalisme intéresse.
Ben voilà, on arrive en fin d'émission. Richard, je te remercie de nous avoir un petit peu éclairé sur ces situations dans le bâtiment et travaux publics. Voilà, et puis ben nous, on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là, parce que la lutte n'est pas finie, hein, ça va se poursuivre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans nos studios.
Mais de rien.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les rigoles.